France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ces messieurs vont-ils loin ? Voyagent-ils pour leur plaisir ? Pour leur plaisir ou pour leur peine ? Connaîtrait-on par cœur les aventures de Jacques le Fataliste, que l'on serait pourtant impatient de retrouver et de suivre Jacques et son maître sur les routes de France ? Jean-Pierre Cassel et Jacques, Jean-Roger Cossimon et son maître, dans l'adaptation radiophonique, dont voici le cinquième épisode, diffusé pour la première fois sur RTF Promotion le 15 novembre 1963.
Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot. Découpé par Roger Pilaudin. Réalisation Henri Soubéran.
Nos deux voyageurs, qui s'étaient couchés tard et la tête un peu chaude de vin, dormirent la grasse matinée. Jacques à terre ou sur des chaises. Son maître plus à l'aise dans son lit. L'hôtesse monta et leur annonça que la journée ne serait pas belle, mais que, quand le temps leur permettrait de continuer leur route, ils risqueraient leur vie ou seraient arrêtés par le gonflement des eaux du ruisseau qu'ils auraient à traverser, et que plusieurs hommes à cheval, qui n'avaient pas voulu l'en croire, avaient été forcés de rebrousser chemin.
Jacques, que ferons-nous ?
Eh bien, nous déjeunerons d'abord avec notre hôtesse, ce qui nous avisera.
L'hôtesse jura que c'était sagement pensé. On servit à déjeuner. L'hôtesse ne demandait pas mieux que d'être gaie. Le maître de Jacques s'y serait prêté, mais Jacques commençait à souffrir. Il mangea de mauvaise grâce, il but peu, il se tut. Ce dernier symptôme était surtout fâcheux. C'était la suite de la mauvaise nuit qu'il avait passée et du mauvais lit qu'il avait eu. Il se plaignit de douleurs dans les membres. Sa voix rauque annonçait un mal de gorge. Son maître lui conseilla de se coucher. Il n'en voulut rien faire. L'hôtesse lui proposait une soupe à l'oignon. Il demanda qu'on fît du feu dans la chambre car il ressentait du frisson. Qu'on lui préparât de la tisane et qu'on lui apporta une bouteille de vin blanc, ce qui fut exécuté sur le champ. Voilà l'hôtesse partie et Jacques en tête à tête avec son maître.
Quel diable de temps ! La belle occasion pour reprendre l'histoire de tes amours, Jacques. Mais on parle mal d'amour et d'autre chose quand on souffre. Vois, tâte-toi, si tu peux continuer, continue, sinon bois ta tisane et dors.
Non, mais c'est que le silence m'est malsain, monsieur, et je suis un animal jaseur. Le principal avantage de ma condition, celui qui me touche le plus...
Eh bien, quel est-il ?
C'est la liberté de me dédommager des 12 années de bâillon que j'ai passées chez mon grand-père, à qui Dieu fasse miséricorde, monsieur.
12 années ? Et quand cela, Jacques ?
Les 12 premières années de ma vie, monsieur, que j'ai passées chez mon grand-père et ma grand-mère.
Comment s'appelait-il ? Quelle était leur profession ?
Ils étaient brocanteurs. Mon grand-père Jason eut plusieurs enfants. Toute la famille était sérieuse. Ils se levaient, ils s'habillaient, ils allaient à leurs affaires. Ils revenaient, ils dînaient, ils retournaient sans avoir dit un mot. Le soir, ils se jetaient sur des chaises. La mère et les filles filaient, cousaient, tricotaient sans mot dire. Les garçons se reposaient. Le père lisait l'Ancien Testament.
Et toi, que faisais-tu ?
Je courais dans la chambre avec un bâillon, monsieur.
Avec un bâillon ?
Oui, avec un bâillon. Et c'est à ce maudit bâillon que je dois la rage de parler. La semaine se passait quelquefois sans qu'on eût ouvert la bouche dans la maison des Jason. Pendant toute sa vie, qui fut longue, ma grand-mère n'avait dit que « chapeau à vendre ». Et mon grand-père, qu'on voyait dans les inventaires, droit les mains sous sa redingote, n'avait dit que... un sou. Il y avait des jours où il était tenté de ne pas croire à la Bible.
Et pourquoi ?
À cause des redites, qu'il regardait comme un bavardage indigne de l'Esprit Saint. Il disait que les rediseurs sont des sots qui prennent ceux qui les écoutent pour des sots.
Jacques, si pour te dédommager du long silence que tu as gardé pendant les 12 années du baillon chez ton grand-père...
Je reprenais l'histoire de mes amours. Et de quoi riez-vous ?
De ce qui me fera rire plus d'une fois, c'est de te voir dans ta jeunesse chez ton grand-père avec le baillon.
Et ma grand-mère me l'ôtait lorsqu'il n'y avait plus personne, et lorsque mon grand-père s'en apercevait, il n'en était pas plus content. Il lui disait « Continuez, et cet enfant sera le plus effréné bavard qui ait encore existé !» Et sa prédiction s'est accomplie.
Allons, mon Jacques, l'histoire de tes amours. Tu en étais à je ne sais quelle proposition malhonnête de la femme du chirurgien. Il s'agissait, je crois, d'expulser celui qui servait au château et d'y installer son mari.
N'y voilà, mais un moment, s'il vous plaît, humectons.
Tu verses du vin blanc dans ta tisane ?
C'est une recette que je tiens de mon capitaine. Le vin blanc fait pisser et diurétique, corrige la fadeur de la tisane et soutient le ton de l'estomac et des intestins. Nous voilà donc sortis de la maison du chirurgien, arrivés au château et entourés de tous ceux qui l'habitaient.
Est-ce que tu y étais connu ?
Assurément. Vous rappelleriez-vous une certaine femme à la cruche d'huile ?
Ah, fort bien.
Et cette femme était la commissionnaire de l'intendant et des domestiques. Jeanne avait prôné dans le château l'acte de commisération que j'avais exercé envers elle. Ma bonne œuvre était parvenue aux oreilles du maître. On ne lui avait pas laissé ignorer les coups de pied et de poing dont elle avait été récompensée la nuit sur le grand chemin. Il avait ordonné qu'on me découvrît et qu'on me transportât chez lui. M'y voilà, on me regarde, on m'interroge, on m'admire. Le maître ordonne qu'on ne me laisse manquer de rien. Eh bien, mon maître, qui sait ce qui est écrit là-haut ? Qu'on dise à présent que c'est bien ou mal fait de donner son argent, que c'est un malheur d'être assommé. Sans ces deux événements, M. Desglans n'aurait jamais entendu parler de Jacques.
M. Desglans ? Seigneur de Miremont ? C'est au château de Miremont que tu es ? Chez mon vieil ami, le père de M. Desforges, l'intendant de la province.
Et tout juste, et la jeune brune à la taille légère, aux yeux noirs.
Et Denise, la fille de Jeanne.
Elle-même.
Oh, tu as raison, c'est une des plus belles et des plus honnêtes créatures qu'il y ait à 20 lieues à la ronde. Moi et la plupart de ceux qui fréquentaient le château de Desglans avaient tout mis en œuvre, inutilement, pour la séduire. Et il n'y avait pas un de nous qui ne fait de grandes sottises pour elle. À quoi penses-tu, Jacques ? Que fais-tu ?
Je fais ma prière.
Est-ce que tu pries ?
Quelquefois.
Et que dis-tu ?
Je dis, toi qui as fait le grand rouleau, quel que tu sois, et dont le doigt a tracé toute l'écriture qui est là-haut, tu as su de tous les temps ce qu'il me fallait, que ta volonté soit faite. Amen.
Est-ce que tu ne ferais pas aussi bien de te taire ?
Peut-être que oui, peut-être que non. Je prie à tout hasard. Et quoi qu'il m'advint, je ne m'en réjouirais ni ne m'en plaindrais si je me possédais. Mais c'est que je suis inconséquent et violent, que j'oublie mes principes ou les leçons de mon capitaine, et que je ris et pleure comme un sot.
Est-ce que ton capitaine ne pleurait point ? Ne riait jamais ?
Rarement. Jeanne m'amena sa fille un matin.
Monsieur, vous voilà dans un beau château, vous serez un peu mieux que chez votre chirurgien. Dans les commencements, surtout, oh, vous serez soigné à ravi. Mais je connais les domestiques, il y a assez longtemps que je le suis. Peu à peu, leur beau zèle se ralentira, les maîtres ne penseront plus à vous. Et si votre maladie dure, vous serez oublié, mais si parfaitement oublié, que s'il vous prenait fantaisie de mourir de faim, cela vous réussirait. Écoute, Denise, je veux que tu visites cet homme-là 4 fois par jour. Le matin, à l'heure du dîner, sur les 5 heures et à l'heure du souper. Je veux que tu lui obéisses comme à moi. Voilà qui est dit. Et n'y manque pas.
Sais-tu ce qui lui est arrivé à ce pauvre Desglans ?
Non, monsieur. Mais si les souhaits que j'ai faits pour sa prospérité n'ont pas été remplis, ce n'est pas faute d'avoir été sincère. C'est lui qui me donna au commandeur de la Boulet, qui périt en passant à Malte. C'est le commandeur de la Boulet qui me donna à son frère aîné le capitaine, qui est peut-être mort à présent de la fistule. C'est ce capitaine qui me donna à son frère le plus jeune, l'avocat général de Toulouse, qui devint fou et que la famille fit enfermer. C'est monsieur Pascal, avocat général de Toulouse, qui me donna au comte de Tourville, qui aima mieux laisser croître sa barbe sous un habit de capucin que d'exposer sa vie. C'est le comte de Tourville qui me donna à la marquise du Bellois, qui s'est sauvée à Londres avec un étranger. C'est la marquise du Bellois qui me donna à un de ses cousins, qui s'est ruiné avec les femmes et qui a passé aux îles. C'est ce cousin-là qui me recommanda à un monsieur hérissant, usurier de profession, qui faisait valoir l'argent de monsieur de Ruzet, docteur de Sorbonne, qui me fit entrer chez mademoiselle Iselin, que vous entreteniez, et qui me plaça chez vous, à qui je devrais un morceau de pain jusqu'à la fin de mes vieux jours, car vous me l'avez promis si je vous restais attaché. Et il n'y a pas d'apparence que nous nous séparions. Jacques a été fait pour vous, et vous fûtes fait pour Jacques.
Mais Jacques, tu as parcouru bien des maisons en assez peu de temps.
Il est vrai. On m'a renvoyé quelquefois.
Pourquoi ?
C'est que je suis né bavard, et que tous ces gens-là voulaient qu'on se tue. Ce n'était pas comme vous qui me remercieriez demain si je me taisais. J'avais tout juste le vice qui vous convenait. Mais qu'est-ce donc qui est arrivé à Monsieur Desglans ? Dites-moi cela tandis que je m'apprêterai à un coup de tisane.
Tu as demeuré dans son château et tu n'as jamais entendu parler de son emplâtre ?
Non.
Cette aventure-là sera pour la route. L'autre est courte. Il avait fait sa fortune au jeu. Il s'attacha à une femme que tu auras pu voir dans son château. Femme d'esprit, mais sérieuse, taciturne, originale et dure. Cette femme lui dit un jour, « Ou vous m'aimez mieux que le jeu, et en ce cas donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne jouerez jamais, ou vous aimez mieux le jeu que moi, et en ce cas ne me parlez plus de votre passion et jouez tant qu'il vous plaira. » Desglans donna sa parole d'honneur qu'il ne jouerait plus.
Ni gros, ni petit jeu ?
Ni gros, ni petit jeu. Il y avait environ 10 ans qu'ils vivaient ensemble dans le château que tu connais, lorsque Desglans, appelé à la ville par une affaire d'intérêt, eut le malheur de rencontrer chez son notaire une de ses anciennes connaissances de Brelan, qui l'entraîna à dîner dans un tripot, où il perdit en une seule séance tout ce qu'il possédait. Sa maîtresse fut inflexible. Elle était riche, elle fit à Desglans une pension modique et se sépara de lui pour toujours.
J'en suis fâché, c'était un galant homme.
Ah oui. Eh bien, Jacques, te voilà chez Desglans, près de Denise, et Denise, autorisée par sa mère, à te faire au moins 4 visites par jour. La coquine, préférez un Jacques.
Un Jacques ? Un Jacques, monsieur, est un homme comme un autre ?
Jacques, tu te trompes. Un Jacques n'est point un homme comme un autre.
Et c'est quelquefois mieux qu'un autre.
Jacques ! Vous vous oubliez. Reprenez l'histoire de vos amours et souvenez-vous que vous n'êtes et ne serez jamais qu'un Jacques.
Et si dans la chaumière où nous trouvâmes les coquins, Jacques n'avait pas valu un peu mieux que son maître.
Jacques, vous êtes un insolent. Vous abusez de ma bonté. Si j'ai fait la sottise de vous tirer de votre place, je saurais bien vous y remettre. Jacques, prenez votre bouteille et votre croquemart et descendez, là-bas.
Cela vous plaît à dire, monsieur, je me trouve bien ici et je ne descendrai pas là-bas.
Je te dis que tu descendras.
Je suis sûr que vous ne dites pas vrai. Comment, monsieur ? Après m'avoir accoutumé pendant 10 ans à vivre de père à compagnon...
Il me plaît que cela cesse.
Après avoir souffert toutes mes impertinences...
Je n'en veux plus souffrir.
Après m'avoir fait asseoir à table à côté de vous, m'avoir appelé votre ami...
Vous ne savez pas ce que c'est que le nom d'ami donné par un supérieur à un subalterne.
Quand on sait que tous vos ordres ne sont que des clous à soufflet s'ils n'ont été ratifiés par Jacques, après avoir si bien accolé votre nom au mien que l'un ne va jamais sans l'autre, et que tout le monde dit Jacques est son maître, à la radiodiffusion française... même. Tout à coup, il vous plaira de les séparer ? Oh non, monsieur, non. Non, cela ne sera pas. Il est écrit là-haut que tant que Jacques vivra, que tant que son maître vivra, et même après qu'ils seront morts tous deux, on dira Jacques et son maître.
Et je dis, Jacques, vous descendrez. Et que vous descendrez sur le champ. Parce que je vous l'ordonne.
Écoutez, monsieur, commandez-moi toute autre chose si vous voulez que je vous obéisse.
Descendez.
Je ne descendrai pas.
Descendez, maroufle. Obéissez-moi.
Maroufle tant qu'il vous plaira, mais le maroufle ne descendra pas. Tenez, monsieur, ce que j'ai dans la tête, comme on dit, je ne l'ai pas au talon. Vous vous échauffez inutilement, Jacques restera où il est et ne descendra pas.
Tu descendras.
Je ne descendrai 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 pas.
Tu descendras.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Me le dira-t-on ?
A-t-on jamais rien vu de pareil ? Tu descendras.
Je ne descendrai pas.
Eh bien, monsieur, de quoi s'agit-il ?
C'est mon maître, à qui la tête tourne. Il est fou.
C'est bête que tu veux dire.
Tout comme il vous plaira.
L'avez-vous entendu ?
Il a tort. Mais la paix, la paix. Parlez l'un ou l'autre et que je sache ce dont il s'agit.
Parle, maroufle.
Parlez-vous-même.
Oh non, monsieur Jacques. Parlez, votre maître vous l'ordonne. Après tout, un maître est un maître.
Eh bien, mon maître veut que je descende et je n'approuve pas ce qu'il m'ordonne. Comme j'ai l'habitude de n'exécuter que les ordres que j'ai approuvés, je ne descendrai pas.
Tu descendras.
Je ne descendrai pas.
Tu descendras.
Je ne descendrai pas.
Messieurs, voulez-vous m'accepter pour arbitre?
Très volontiers.
Et vous vous engagez d'honneur à exécuter ma sentence?
D'honneur.
Oui, la déclaration de Monsieur Jacques est d'après des faits tendant à prouver que son maître est un bon, un très bon, un trop bon maître, et que Jacques n'est point un mauvais serviteur, quoique un peu sujet à confondre la possession absolue avec la concession passagère et gratuite, j'annule l'égalité qui s'est établie entre eux par laps de temps et la recrée sur le champ. Jacques descendra, et quand il aura descendu, il remontera. Il rentrera dans toutes les prérogatives dont il a joui jusqu'à ce jour. Son maître lui tendra la main et lui dira d'amitié « Bonjour Jacques, je suis bien aise de vous revoir. » Jacques lui répondra « Et moi, monsieur, je suis enchanté de vous retrouver. Et je défends qu'il soit jamais question entre eux de cette affaire et que la prérogative de maître et de serviteur soit agitée à l'avenir. Voulons que l'un ordonne et que l'autre obéisse, chacun de son mieux, et qu'il soit laissé entre ce que l'un peut et ce que l'autre doit, la même obscurité que ci-devant. Allons, allons-vous, Jacques. Donnez-moi le bras sans parlementer davantage.
Il était donc écrit là-haut que je descendrais.
Il était écrit là-haut qu'au moment où l'on prend maître, on descendra, on montera, on avancera, on reculera, on restera, et cela sans qu'il soit jamais libre au pied de se refuser aux ordres de la tête. Allons, qu'on me donne le bras, et que mon ordre s'accomplisse.
Jacques, embrasse-moi. Embrassez-moi, notre hôtesse. Ah, il est écrit là-haut que je ne me déferai jamais de cet original-là. Et que tant que je vivrai, il sera mon maître et que je serai son serviteur.
Et qu'à vue de pays, vous ne vous en trouverez pas plus mal tous deux. Allons, allons, je vous laisse et je m'en vais à mes affaires.
Jacques. À présent que nous voilà de sang-froid et en état de juger sainement, ne conviendras-tu pas?
Je conviendrai que quand on a donné sa parole d'honneur, il faut la tenir. Et puisque nous avons promis au juge, sur notre parole d'honneur, de ne pas revenir sur cette affaire, il n'en faut plus parler.
Tu as raison.
Mais sans revenir sur cette affaire, ne pourrions-nous pas en prévenir cent autres par quelque arrangement raisonnable?
J'y consens.
Stipulons. Premièrement, qu'attendu qu'il est écrit là-haut que je vous suis essentiel et que je sens, que je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi, j'abuserai de ces avantages toutes et quantes fois que l'occasion s'en présentera.
Mais Jacques, on n'a jamais rien stipulé de pareil.
Enfin, stipulé ou non stipulé, cela s'est fait de tous les temps, se fait aujourd'hui et se fera tant que le monde durera. Croyez-vous que les autres n'aient pas cherché comme vous à se soustraire à ce décret et que vous serez plus habile qu'eux? Non. Défaites-vous de cette idée et soumettez-vous à la loi d'un besoin dont il n'est pas en votre pouvoir de vous affranchir. Stipulons, deuxièmement, qu'attendu qu'il est aussi impossible à Jacques de ne pas connaître son ascendant et sa force sur son maître, qu'à son maître de méconnaître sa faiblesse et de se dépouiller de son indulgence, il faut que Jacques soit insolent et que pour la paix, son maître ne s'en aperçoive pas. Tout cela s'est arrangé à notre insu, tout cela fut scellé là-haut, au moment où la nature fit Jacques et son maître. Il fut arrêté que vous auriez les titres et que j'aurais la chose. Si vous vouliez vous opposer à la volonté de la nature, vous n'y feriez que de l'eau claire.
Mais à ce compte, ton lot vaudrait mieux que le mien.
Qui vous le dispute?
Mais à ce compte, je n'ai qu'à prendre ta place et te mettre à la mienne.
Savez-vous ce qui en arriverait? Vous y perdriez le titre et vous n'auriez pas la chose. Restons comme nous sommes fort bien tous deux, et que le reste de notre vie soit employé à faire un proverbe.
Quel proverbe?
Jacques mène son maître. Nous serons les premiers dont on l'aura dit, mais on le répétera de mille autres qui valent mieux que vous et moi.
Oh, cela me semble dur, très dur.
Mon maître, mon cher maître, vous allez regimber contre un aiguillon qui n'en piquera que plus vivement? Voilà donc qui est convenu entre nous.
Et que fait notre consentement à une loi nécessaire?
Beaucoup! Croyez-vous qu'il soit inutile de savoir une bonne fois, nettement, clairement, à quoi s'en tenir? Toutes nos querelles ne sont venues jusqu'à présent que parce que nous ne nous étions pas encore bien dit, vous que vous vous appelleriez mon maître, et que c'est moi qui serais le vôtre. Mais voilà qui est entendu, et nous n'avons plus qu'à cheminer en conséquence.
Mais où diable as-tu appris tout cela?
Dans le grand livre. Ah, mon maître, On a beau réfléchir, méditer, étudier dans tous les livres du monde, on n'est jamais qu'un petit clerc quand on n'a pas lu dans le grand livre.
L'après-dîner, le soleil s'éclaircit. Jacques descendit. Son maître paya l'hôtesse très largement. Oui, voilà, à la porte de l'auberge, un assez grand nombre de passagers se préparant à continuer leur route. Et parmi ces passagers, Jacques et son maître, l'homme au mariage saugrenu et son compagnon, qui avaient la même route à faire. Oui, de ces quatre personnages, il n'y a que le dernier qui ne vous soit pas connu. Il avait à peine atteint l'âge de 22 ou 23 ans. Il était d'une timidité qui se peignait sur son visage. Il portait sa tête un peu penchée sur l'épaule gauche. Il était silencieux et n'avait presque aucun usage du monde.
Je gage que ce jeune homme a porté l'habit de moine.
Et pourquoi cela, Jacques ?
Vous verrez.
Nos quatre voyageurs allèrent de compagnie, s'entretenant de la pluie, du beau temps, de l'hôtesse, de la querelle du marquis des Arcis au sujet de Nicole. Mais cette chienne affamée et malpropre venait sans cesse s'essuyer à ses bas. Après l'avoir inutilement chassée plusieurs fois avec sa serviette, d'impatience, il lui avait détaché un assez violent coup de pied. Et voilà, tout de suite, la conversation tournait sur cet attachement singulier des femmes pour les animaux. Chacun en dit son avis.
Et toi, Jacques, qu'en penses-tu ?
N'avez-vous jamais remarqué, monsieur, que quelle que soit la misère des petites gens, n'ayant pas de pain pour eux, ils ont tous des chiens ?
Sans doute.
Et n'avez-vous pas remarqué aussi que ces chiens, étant tous appris à faire des tours, à marcher à deux pattes, à danser, à rapporter, à sauter pour le roi, pour la reine, à faire le mort, cette éducation les a rendus les plus malheureuses bêtes du monde.
Oui, et qu'en conclues-tu ?
J'en conclus que tout homme veut commander à un autre, et que l'animal, se trouvant dans la société, immédiatement au-dessous de la classe des derniers citoyens commandés par toutes les autres classes, ils prennent un animal pour commander aussi à quelqu'un. Eh bien, chacun a son chien. Le ministre est le chien du roi, le premier commis est le chien du ministre, la femme est le chien du mari, ou le mari, le chien de la femme, Favori est le chien de celle-ci, et Thibault est le chien de l'homme du coin. Lorsque mon maître me fait parler quand je voudrais me taire, ce qui, à la vérité, m'arrive rarement, lorsqu'il me fait taire quand je voudrais parler, ce qui est très difficile, lorsqu'il me demande l'histoire de mes amours et que j'aimerais mieux causer d'autre chose, lorsque j'ai commencé l'histoire de mes amours et qu'il l'interrompt, que suis-je autre chose que son chien ? Les hommes faibles sont les chiens des hommes fermes.
Mais Jacques, cet attachement pour les animaux, je ne le remarque pas seulement dans les petites gens. Je connais de grandes dames entourées d'une meute de chiens, sans compter les chats, les perroquets, les oiseaux.
C'est leur satire et celle de ceux qui les entourent. Elles n'aiment personne, personne ne les aime, et elles jettent aux chiens un sentiment dont elles ne savent que faire.
Qu'en pensez-vous, marquis ?
Aimer les animaux ou jeter son cœur aux chiens, cela est singulièrement vu.
Ce qu'on donne à ces animaux-là suffirait à la nourriture de deux ou trois malheureux.
À présent, en êtes-vous surpris ?
Non.
Vous avez là un serviteur qui n'est pas ordinaire.
Un serviteur ? Vous avez bien de la bonté. C'est moi qui suis le sien. Et peu s'en est fallu que ce matin, pas plus tard, il ne me l'ait prouvé en forme.
Tout en causant, on arrive à la coucher. Et l'on fit chambre commune. Le maître de Jacques et le marquis des Arcis soupèrent ensemble. Jacques et le jeune homme furent servis à part. Le maître ébaucha en quatre mots au marquis l'histoire de Jacques et son tour de tête fataliste. Le marquis parla du jeune homme qui le suivait.
Ce jeune homme a été prémontré. Il est sorti de sa maison par une aventure bizarre. Des amis me l'ont recommandé et J'en ai fait mon secrétaire en attendant mieux.
Cela est plaisant.
Mais que trouvez-vous de plaisant à cela?
Je parle de Jacques. À peine sommes-nous entrés dans le logis que nous venons de quitter que Jacques m'a dit à voix basse « Monsieur, regardez bien ce jeune homme, je gagerais qu'il a été moine. »
Il a rencontré juste, je ne sais sur quoi. Vous couchez-vous de bonne heure?
Non, pas ordinairement. Et ce soir, j'en suis d'autant moins pressé que nous n'avons fait que demi-journée.
Si vous n'avez rien qui vous occupe plus utilement ou plus agréablement, je vous raconterai l'histoire de mon secrétaire. Elle n'est pas commune.
Et non, l'auteur. Et les amours de Jacques.
Je vous entends, auditeur. Mais croyez-vous que je n'en sois pas aussi curieux que vous? Avez-vous oublié que Jacques aimait à parler, et surtout à parler de lui? Manie générale des gens de son état, manie qui les tire de leur abjection, qui les place dans la tribune et qui les transforme tout à coup en personnages intéressants. Mais quel est, à votre avis, le motif qui attire la populace aux exécutions publiques? L'inhumanité? Non, vous vous trompez. Le peuple n'est point inhumain. Ce malheureux autour de l'échafaud duquel il s'attroupe, il l'arracherait des mains de la justice s'il le pouvait. Non, il va chercher en grève une scène qu'il puisse raconter à son retour dans le faubourg. Celle-là ou une autre, ça lui est indifférent. Pourvu qu'il fasse un rôle, qu'il rassemble ses voisins et qu'il s'en fasse écouter. Mais donnez au boulevard une fête amusante et vous verrez que la place des exécutions sera vide. Le peuple est avide de spectacle et y court parce qu'il est amusé quand il en jouit et qu'il est encore plus amusé par le récit qu'il en fait quand il en est revenu. Le peuple est terrible dans sa fureur, mais elle ne dure pas. Sa misère propre l'a rendu compatissant. Il détourne les yeux du spectacle d'horreur qu'il est allé chercher. Il s'attendrit, il s'en retourne en pleurant.
Hé, l'auteur, tout ce que vous débitez là aux auditeurs, vous le donnez de moi?
Je l'avoue, je n'aime pas à me faire honneur de l'esprit d'autrui. Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots « récompense » ou « châtiment », il haussait les épaules. Selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, le châtiment, l'effroi des méchants.
Qu'est-ce autre chose, s'il n'y a point de liberté, que notre destinée soit écrite là-haut? Un homme s'achemine aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne. Et si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire.
J'ai plusieurs fois contredit Jacques, mais sans avantage et sans fruit. Ah, en effet, que répliquer à celui qui vous dit?
Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un. Or, une cause n'a qu'un effet. J'ai toujours été une cause une. Je n'ai donc jamais qu'un effet à produire. Ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires.
C'est ainsi que Jacques raisonnait, d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ses opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par cœur.
D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien.
Et cela n'était pourtant pas vrai, auditeur. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur pour qu'il lui fît encore du bien. Il se mettait en colère contre l'homme injuste. Et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qu'il a frappée...
Nenni, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. L'homme injuste est modifié par le bâton.
Souvent, il était inconséquent, comme vous et moi, et sujet à oublier ses principes, excepté dans quelques circonstances où sa philosophie le dominait, évidemment. C'est alors qu'il disait...
Il fallait que cela fût, car cela était écrit là-haut.
Il tâchait à prévenir le mal. Il était prudent avec le plus grand mépris pour la prudence. Lorsque l'accident était arrivé, il en revenait à son refrain, et il était consolé. Du reste, bonhomme, franc, honnête, brave, attaché, fidèle, très têtu, encore plus bavard, et affligé comme vous et moi d'avoir commencé l'histoire de ses amours sans presque aucun espoir de la finir. Aussi, je vous conseille, auditeur, de prendre votre parti, et à défaut des amours de Jacques, de vous accommoder des aventures du secrétaire du marquis des Arcis. D'ailleurs, je le vois, ce pauvre Jacques, le cou entortillé d'un large mouchoir, sa gourde ci-devant pleine de bon vin, ne contenant que de la tisane, toussant, jurant contre l'hôtesse qu'ils ont quittée et contre son vin de champagne, ce qu'il ne ferait pas s'il se ressouvenait que tout est écrit là-haut, même son rhume. Et puis, auditeur, toujours des contes d'amour. 1, 2, 3, 4 contes d'amour que je vous ai faits. 3 ou 4 autres contes d'amour qui vous reviennent encore. Puis ce sont beaucoup de contes d'amour. Il est vrai, d'un autre côté, que puisqu'on écrit pour vous, il faut ou se passer de votre applaudissement ou vous servir à votre goût. Et que vous l'avez bien décidé pour les contes d'amour. Toutes vos nouvelles, en vers ou en prose, sont des contes d'amour. Presque tous vos poèmes, élégies, églogues, idylles, chansons, épîtres, comédies, tragédies, opéras, sont des contes d'amour. Et presque toutes vos peintures et vos sculptures ne sont que des contes d'amour. Vous êtes aux contes d'amour pour toute nourriture depuis que vous existez. Et vous ne vous en lassez point. L'on vous tient à ce régime et l'on vous y tiendra longtemps encore, hommes et femmes, grands et petits enfants, sans que vous vous en lassiez. En vérité, cela est merveilleux. Et je voudrais que l'histoire du secrétaire du marquis des Arcis fût encore un conte d'amour. Mais j'ai peur qu'il n'en soit rien et que vous n'en soyez ennuyés. Tant pis pour le marquis des Arcis, pour le maître de Jacques, pour vous, auditeurs, et pour moi.
Il vient un moment où presque toutes les jeunes filles et les jeunes garçons tombent dans la mélancolie. Ils sont tourmentés d'une inquiétude vague qui se promène sur tout et qui ne trouve rien qui la calme. Ils cherchent la solitude, ils pleurent, le silence des cloîtres les touche, l'image de la paix qui semble régner dans les maisons religieuses les séduit. Ils prennent pour la voix de Dieu qui les appelle à lui les premiers efforts d'un tempérament qui se développe. Et c'est précisément lorsque la nature les sollicite qu'ils embrassent un genre de vie contraire aux vœux de la nature. L'erreur ne dure pas. L'expression de la nature devient plus claire, on la reconnaît, et l'être séquestré tombe dans les regrets, la langueur, les vapeurs, la folie ou le désespoir. Dégoûté du monde, à l'âge de 17 ans, Richard, c'est le nom de mon secrétaire, se sauva de la maison paternelle et prit l'habit de Prémontré.
De Prémontré? Je l'ai assez gré. Ils sont blancs comme des cygnes, et Saint Norbert, qui les fonda, ne mit qu'une chose dans ces conditions.
D'assigner un vis-à-vis à chacun de ses religieux.
Si ce n'était pas l'usage des amours d'aller tout nu, ils se déguiseraient en Prémontré. Il règne dans cet ordre une politique singulière. On vous permet la duchesse, la marquise, la comtesse, la présidente, la conseillère, même la financière, mais point la bourgeoise. Quelque jolie que soit la marchande, vous verrez rarement un Prémontré dans une boutique.
C'est ce que Richard m'avait dit. Mais je vous conterai la suite demain.
C'était Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. Jean-Roger Caussimon, son maître. Lise Delamare, sociétaire de la Comédie Française, l'hôtesse. Renaud Marie, le marquis des Arcis. Liliane Gaudet, Jeanne. Et Jean Péméja, l'auditeur. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage, Robert Mouffrat. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Yann Parentoen.
Assistant de production, Pierre Cazaré. Réalisation, Henri Soubérin.
Ce cinquième épisode a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, bientôt renommée France Culture, le 15 novembre 1963. À suivre et d'ici là, à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi que les épisodes précédents.